Guillaume toussa poliment.
Et, oh, dit-il,
et il faisait ainsi quand il voulait introduire un autre sujet. Avec une parfaite bonne grâce d'ailleurs, parce qu'il était dans ses habitudes, et je crois que c'est typique des hommes de sa terre, de commencer chacune de ses interventions par de longs gémissements liminaires, comme si mettre en branle l'exposition d'une pensée accomplie lui coûtait un grand effort de l'esprit. Alors que, j'en étais désormais convaincu, plus ses gémissements étaient nombreux avant son assertion, plus il était sûr de l'excellence de la proposition qu'elle exprimait.
« Et, ouf, fit Guillaume, nous devrions parler de la rencontre et du débat sur la pauvreté. »«
La pauvreté, dit l'abbé encore tout rêveur, comme s'il lui en coûtait de descendre de cette belle région de l'univers où l'avaient transporté ses gemmes. C'est vrai, la rencontre. » Et ils commencèrent une discussion serrée sur des choses qu'en partie je connaissais déjà et en partie je parvins à comprendre en écoutant leur entretien. Il s'agissait, comme je l'ai dit dès le début de cette chronique fidèle, de la double querelle qui opposait d'un côté l'empereur au pape et de l'autre le pape aux franciscains qui, lors du chapitre de Pérouse, fût-ce avec des années de retard, avaient fait leur thèse des spirituels sur la pauvreté de Christ. Et de l'embrouillement qui s'était formé en unissant les franciscains à l'Empire, embrouillement qui, de triangle d'opposition et d'alliance, s'était désormais transformé en un carré par l'intervention, à moins encore fort obscure, des abbés de l'ordre de Saint-Benoît. Pour ma part, je n'ai jamais saisi avec clarté la raison pour laquelle les abbés bénédictins avaient donné protection et asile aux franciscains spirituels, avant encore que leur propre ordre en partageât de quelque façon que ce fût les opinions. Car si les spirituels prêchaient le renoncement à tous les biens terrestres, les abbés de mon ordre, j'en avais eu ce jour même la lumineuse confirmation, suivaient une voie non moins vertueuse mais diamétralement opposée. Je crois que les abbés considéraient qu'un excessif pouvoir du pape signifiait un excessif pouvoir des évêques et des villes, alors que mon ordre avait gardé intacte sa puissance au cours des siècles précisément en lutte avec le clergé séculier et les marchands citadins, se plaçant comme médiateur direct entre le ciel et la terre et conseiller des souverains. J'avais entendu répéter tant de fois la phrase selon laquelle le peuple de Dieu se divisait en pasteurs, autrement dit les clercs, chiens, autrement dit les guerriers, et brebis, le peuple. Mais j'ai appris par la suite que cette phrase peut être redite de différentes façons. Les bénédictins avaient souvent parlé non pas de trois ordres, mais de deux grandes divisions. L'une qui concernait l'administration des choses terrestres et l'autre qui concernait l'administration des choses célestes. En ce qui concernait les choses terrestres, la division entre clergé, seigneur laïque et peuple était valable, mais sur cette tripartition dominait la présence de l'ordo monachorum, lien direct entre le peuple de Dieu et le ciel, et les moines n'avaient rien à voir avec ces pasteurs séculiers qu'étaient les prêtres et les évêques, ignorants et corrompus, soumis désormais aux intérêts des villes, où les brebis n'étaient plus tant les bons et fidèles paysans, mais bien les marchands et les artisans. Point ne déplaisait à l'ordre bénédictin que le gouvernement des simples fût confié aux clercs séculiers, pourvu que le règlement définitif de ce rapport fût établi par les moines, en contact direct avec la source de tout pouvoir terrestre, l'Empire, ainsi qu'il l'était avec la source de tout pouvoir céleste. Voilà pourquoi je crois de nombreux abbés bénédictins, pour restituer sa dignité à l'Empire contre le gouvernement des villes, évêques et marchands unis, acceptèrent aussi de protéger les franciscains spirituels, dont ils ne partageaient pas les idées, mais dont la présence les arrangeait dans la mesure où elle offrait à l'Empire de bons syllogismes contre le pouvoir excessif du pape. Ce sont là, argai-je, les raisons pour lesquelles Abbon s'apprêtait maintenant à collaborer avec Guillaume, l'envoyé de l'empereur, pour servir de médiateur entre l'ordre franciscain et le siège pontifical. De fait, même dans la violence de la dispute qui faisait tant péricliter l'unité de l'Église, Michel de Cézanne, plusieurs fois appelé en Avignon par le pape Jean, s'était enfin disposé à accepter l'invitation, parce qu'il ne voulait pas que son ordre brisât définitivement avec le pontife. En tant que général des franciscains, il voulait à la fois faire triompher leur position et obtenir l'approbation du pape, car il avait aussi l'intuition que sans l'approbation papale, il ne pourrait longtemps demeurer à la tête de l'ordre. Mais beaucoup lui avaient fait observer que le pape l'attendrait en France pour lui tendre un piège, l'accuser d'hérésie et lui faire un procès. C'est pourquoi il lui conseillait que le voyage de Michel en Avignon fût précédé de quelques pourparlers. Marsile avait eu une meilleure idée. Envoyez en même temps que Michel un légat impérial qui présenta au pape le point de vue des tenants de l'empereur. Non tant pour convaincre le vieux Cahors que pour renforcer la position de Michel, qui, faisant partie d'une légation impériale, n'aurait pu aussi facilement tomber proie de la vengeance pontificale. Cette idée présentait toutefois de nombreux inconvénients et n'était pas réalisable sur le champ. De là, le projet d'une rencontre préliminaire entre les membres de la légation impériale et quelques envoyés du pape, afin d'établir les respectives positions et de rédiger les accords pour une rencontre où la sécurité des visiteurs italiens serait garantie. L'organisation de cette première rencontre, c'est justement Guillaume de Baskerville qui en avait été chargé, qui devrait par la suite représenter le point de vue des théologiens impériaux en Avignon, s'il jugeait que le voyage était possible sans danger. Entreprise malaisée, car on supposait que le pape, qui voulait Michel tout seul afin de pouvoir le réduire plus facilement à l'obéissance, enverrait en Italie une légation instruite de façon à faire échec, dans toute la mesure du possible, au voyage des envoyés impériaux à sa cour. Guillaume avait manœuvré jusqu'alors avec une grande habileté. Après de longues consultations avec différents abbés bénédictins, voilà la raison des nombreuses étapes de notre voyage, il avait choisi celle où nous nous trouvions précisément, parce qu'on savait que l'abbé y était tout dévoué à l'Empire, et cependant, grâce à sa grande souplesse diplomatique, point mal vu à la cour pontificale. Territoire neutre, donc, l'abbaye où les deux groupes pourraient se rencontrer.